Bonsoir tout le monde. Vous avez devant vous un stock de détestables photocopies. On s'efforcera pour la prochaine fois que ce soit mieux. Vous savez, les choses importantes vont toujours lentement. Et donc, c'est la preuve des choses importantes puisque ça va lentement. Voilà. Nous sommes en plein dans l'étude du texte de Sanhédrin qui traite de la résurrection des morts. Oui. Ah, ça dérange. Là, comme ça. Là. Là. J'ai pas fait le make-up. Et là, ça va. Là. Là. Ouais. Ouais. Bon, admettons. Alors, comme je disais, nous sommes dans le passage de Sanhédrin, enfin cette partie de Sanhédrin, qui traite de la résurrection des morts et de son origine dans la Torah. Et là, nous allons avoir une question qui va être posée plusieurs fois et qui risque d'être mal comprise. C'est la suivante. Regardez tout de suite dans la page de droite, la Tzadik Amud Bet. C'est à la ligne 6. Amar Rabbi Yochanan. Vous voyez là entre parenthèses, il y a entre Amar Rabbi Yochanan. Je sais que c'est difficile à dire, vous allez me pardonner. Ça, c'est bien obligé. Je suis tellement sympathique. Bon, donc sixième ligne. Amar Rabbi Yochanan. Minayin bitriyat hametim minatora. Alors, donc la mauvaise traduction c'est: d'où savons-nous, à partir de la Torah, qu'il y a la résurrection des morts? Voilà. Minayin nitriyat hametim mina Torah. Et alors on va nous amener des versets, à peu près une quinzaine de preuves seront amenées, si on peut appeler ça des preuves de l'existence de la résurrection des morts, à partir de textes de la Torah, ici la Torah dans le sens large du terme, puisqu'il s'agit également des prophètes. N'est-ce pas, de tout le Tanakh, on va amener des versets. Et le problème de toutes ces preuves, c'est qu'elles ne sont pas convaincantes. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est la Guémara elle-même qui le dit. Parce que pour chaque preuve, enfin ou presque chaque preuve, la Guémara va amener une opinion opposée qui va dire: ce verset ne parle pas de la résurrection des morts. De même d'ailleurs, Maïmonide, dans un traité qu'il a écrit, Ma'amar Tichiyat Hametim, le traité de la résurrection des morts, affirme que la résurrection des morts n'est pas mentionnée dans la Bible. Sauf dans deux versets, à la fin du livre de Daniel. Il dit tous les autres versets, peut-être ils font allusion, mais ne sont pas une référence sûre. Il n'y a que dans le livre de Daniel, effectivement, qu'à la fin, il est question de la résurrection des morts. Donc il est évident que quand les Chachamim de la Guémara vont nous amener des versets qui prouvent la résurrection des morts, leur intention n'est pas de prouver la résurrection des morts. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils nous veulent? Eh bien, ils veulent nous expliquer qu'est-ce que la Torah a fait pour nous donner l'intuition de la résurrection des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résurrection des morts est un événement qu'aucun de nous n'a vécu. C'est-à-dire nous n'avons jamais vu les morts revivre. Aucun de nous, après sa mort, n'a passé cette expérience de résurrection. Et donc, c'est quelque chose d'absolument, disons, inconcevable. Alors, comment est-ce que l'on peut demander à des gens d'admettre une idée qu'ils ne peuvent pas concevoir? Imaginez, par exemple, que je demande à un enfant qui ne sait même pas encore compter d'admettre que la solution d'une équation à 2 degrés, c'est moins b plus moins racine de b au carré moins 4ac divisé par 2a. Est-ce qu'il est capable de comprendre de quoi je parle? Il n'en est pas capable. Il n'a même pas la moindre notion d'algèbre. Et donc, a priori, nous demander de croire en la résurrection des morts, c'est à peu près du même ordre. On nous demande d'admettre une réalité dont nous n'avons pas la moindre idée. Alors, si malgré tout, on nous demande d'y croire, c'est qu'il y a certainement, dans l'ordre des choses tel que la Torah l'a organisé, un moyen d'avoir un atome, une molécule d'intuition de ce que c'est. Voyez-vous ? Et c'est ça la question qui est posée par la Gemara. Minayin litriyat amitim mina Torah, ça ne veut pas dire d'où est-ce que nous savons qu'il y a résurrection des morts. Ça veut dire qu'est-ce que la Torah a fait pour nous en donner une idée. Et si on comprend ça de cette manière, alors bien des textes que nous allons étudier seront beaucoup plus clairs.
Mais sinon, il y a des prophètes qui ont parlé de la résurrection.
Ah oui, lesquels?
Une Haftara où on dit la pauvre revient sur les eaux, etc.
Ah bon, vraiment? Oui, la Haftara dans Ézéchiel.
Oui.
Ce qui est marrant, c'est que la Guémara amène une quinzaine de preuves, elle n'amène pas celle-là. C'est quand même bizarre. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Vous savez qu'à l'époque du Deuxième Temple, il y avait quand même en Israël une secte qu'on appelait les Sadducéens, qui étaient nos opposants, puisque nous sommes les pharisiens. Or, les Sadducéens, qui reconnaissaient tout à fait l'autorité d'Ézéchiel, n'admettaient pas la résurrection des morts. Ça veut dire qu'ils lisaient cette Haftara différemment de vous. Et donc, nous allons devoir étudier, dans le texte de la Gemara, comment est-ce que les Chachamim, pas seulement les Sadducéens, comment est-ce que les Chachamim, à nous, lisaient ce texte. Et nous allons voir quelque chose d'extrêmement surprenant, c'est que d'après la plupart des rabbins, ce texte de la Haftara dont vous parlez, c'est la Haftara de Chol HaMoed de Pessah, du Shabbat, Shabbat Chol HaMoed de Pessah, ce qui prouve que vous êtes bien éveillé lors de ce Shabbat. Eh bien, ce texte, d'après la plupart des rabbins, ne parle pas de la résurrection des morts. Il parle d'autre chose. De quoi parle-t-il? Bon, on le verra quand nous arriverons à cette étude. Voyez-vous donc, je reprends donc ici, il est évident, d'ailleurs le Rambam aussi pense que le seul texte de la Bible qui parle de la résurrection des morts, c'est dans Daniel. N'est-ce pas? À la fin de Daniel. Et donc là, se pose la question effectivement de savoir qu'est-ce que c'est que ces preuves, ce ne sont pas des preuves, ce sont des intuitions. Minayin litriyat amitim mina Torah. D'ailleurs, nous allons y arriver tout de suite. Et ce que nous allons voir, ce qui est très surprenant, c'est qu'à chaque fois, la réponse est différente selon celui qui pose la question. C'est-à-dire, pour chaque interlocuteur, chaque espèce de questionneur, la Torah va avoir une autre réponse. Voilà. Donc, là, nous allons voir la première réponse et nous allons essayer de comprendre à qui est-ce qu'elle est adressée. Alors je lis ici le texte à la sixième ligne. Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan disait: Minayin litriyat amitim mina Torah. D'où avons-nous donc l'intuition de la résurrection des morts selon la Torah? Shenema, car il est dit. On amène un verset. Untatem mimennu et terumat Hashem le Aharon haKohen. Vous en donnerez le prélèvement de Dieu à Aharon le prêtre. De quoi s'agit-il? De la récolte. C'est-à-dire, quand je récolte mon champ, je dois amener un prélèvement. Ce prélèvement, je dois l'amener, si on littéralement le texte, je dois l'amener à Aharon. Le problème, c'est que Aharon, il est mort. Il est mort il y a déjà 3300 ans à peu près. Oui, mais c'est pas écrit comme ça. Il n'y a pas écrit « Vous amènerez ça au Kohen ». Il y a écrit « Vous amènerez ça à Aharon le Kohen ». Or, il n'est jamais rentré en Eretz Israël. Il n'a jamais été sujet de ce prélèvement. La dîme n'a jamais été amenée à Aharon. Ce qui veut donc dire qu'il va falloir qu'il revive pour que ce verset soit accompli. Et donc, on lui amènera la terouma. C'est QFD. Canard qu'il fallait déplumer. Ce qu'il fallait démontré. Voilà. Donc c'est la preuve. Alors, vous voyez ce que dit la Gemara. Vechi Aharon le'olam kayam. Aharon est-il éternel? Vahalo lo nichnas l'Eretz Israël shnotim lo truma. Il n'est jamais rentré en Eretz Israël pour qu'on lui donne le prélèvement. Et là, melamed, cela veut donc enseigner she'atid lihyot, que dans l'avenir il vivra. Ve Israël notnim lo teruma, et Israël lui donnera le prélèvement. Mikan litriyat amitim min haTorah. Cela donc est la preuve de la résurrection des morts selon la Torah. Alors, est-ce que vous êtes convaincu qu'il a raison, Rabbi Yohanan? Comment? C'est pas mal. C'est une bonne preuve, n'est-ce pas? Ça te convainc. Mais je pense, si je peux oser proposer quand même une autre interprétation.
Moi, j'ai une question. Vous ne croyez pas dans le Olam Haba, c'est-à-dire que dans l'autre dimension où les âmes restent vivantes et tout ça?
Bien sûr qu'ils y croyaient.
Et alors
quoi? Je n'ai pas compris votre question, excusez-moi. Je suis un peu limité. Expliquez-moi.
C'est moi. Vous dites que les Sadducéens, ils ne croyaient pas.
Ah, les Sadducéens, non, ils ne croyaient pas.
Mais ils croyaient quand même dans Olam Haba.
Non.
Gamelot.
Gamelot. Les Sadducéens, non, ils ne croyaient pas en ça. Les Sadducéens étaient des hérétiques. Ils ne croyaient pas au Olam Haba. Et en tout cas, donc, ce que dit ici Rabbi Yochanan, c'est que puisqu'il faut bien donner la terouma à Aaron HaKohen, ça veut donc dire qu'il va vivre. Je peux oser une autre interprétation? C'est-à-dire que quand je donne la terouma à un Kohen, je dois chercher un Kohen qui ressemble à Aaron. On ne donne pas à n'importe qui. Il y a un Kohen, un pauvre type de Kohen. Il est Kohen, et alors? Oui, mais il se comporte mal. Alors je vais lui donner la terouma. Je ne sais pas, il ne paye pas ses impôts. Il frappe sa femme. Il parle pendant la Hazara. Je vais lui donner la terouma. Pas question. Je vais chercher un Kohen qui me semble digne d'être un descendant d'Aaron. C'est ça que ça veut dire. On peut dire comme ça ou pas? La preuve, c'est qu'il y a un rabbin qui le fait. Debé Rabbi Ishmael Tana. Dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, on enseignait les Aharon. Que veut dire Aharon? Ké Aharon. Quelqu'un qui est comme Aharon. Ma Aharon Haver Af Banav Haverim. De même que Aharon était un homme intègre, de même ses fils, à qui on donne la terouma, doivent être des hommes intègres. Le mot Haver signifie celui dont on sait qu'il va se comporter avec la terouma de manière convenable. Ça veut dire quoi? Par exemple, qu'est-ce que peut faire un Kohen qui n'est pas convenable? Il risque de manger la terouma en état d'impureté. Or, c'est très grave, on n'a pas le droit de manger la terouma en état d'impureté. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous ne donnons pas la terouma aux Kohen, parce que les Kohen sont impurs. N'est-ce pas? Et nous aussi, nous sommes impurs. C'est-à-dire, quand on fait, par exemple, le prélèvement de la challah, eh bien, on ne l'amène pas au Kohen, on devrait l'amener au Kohen. Ben, on ne l'amène pas. Pourquoi? Parce que le Kohen ne peut pas la manger, cette challah, puisqu'il est impur. Il y a un seul cas aujourd'hui où nous donnons quand même la terouma au Kohen, c'est pour l'huile. Oui, l'huile, on peut donner la terouma de l'huile à des Kohanim pour Hanouka, pour allumer, par exemple. Parce qu'on n'a pas besoin d'être pur pour ça. C'est ce qu'on appelle, dans la Mishnah, Shemen Serefa. C'est-à-dire de l'huile qui n'est bonne qu'à brûler. Parce que c'est de l'huile de terouma, qui ne peut pas être consommée, puisqu'elle a été impure, elle a été souillée, et donc elle est brûlée. C'est Shemen Serefa, c'est ce qu'on dit dans Bamé Madikin. El Madikin be Shemen Serefa be Yom Tov. Ben, c'est ça. Voilà. Donc en tout cas, le Kohen que l'on cherche doit être Haver, et non pas, le contraire de Haver, c'est Amha'aret. Amha'aret, ça veut dire qu'il est supposé ne pas se comporter convenablement avec la terouma. Et là, vous avez tout donc le texte. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Minayin She'en Notnim Terouma Le Kohen Amha'aretz. D'où savons-nous qu'on ne peut pas donner le prélèvement à un Kohen Amha'aretz, c'est-à-dire du commun du peuple, Sheneema, ainsi qu'il est dit dans le livre de Divrei Hayamim Bet. Vayomer La'am Liyoshve Yerushalayim. Il dit au peuple habitant Jérusalem, la tête menat hakohanim halleviim, de donner la part des prêtres et des leviim, les ma'an yahezku betorat Hashem, afin qu'ils se renforcent dans la loi de Dieu. Et donc, déduction de la Gemara, kol amachazik betorat Hashem, celui qui soutient la loi de Dieu, yesh lo menat, il a sa part, vesheno machazik betorat Hashem, celui qui n'est pas fidèle à la loi de Dieu, en l'omenat, il n'a pas sa part. Alors maintenant, essayons de comprendre un peu ce que ça veut dire pour cette histoire. D'abord, j'aimerais comprendre ce qu'a dit Rabbi Yochanan et ce qu'a dit Rabbi Ishmael. Rabbi Yochanan cherche ce qui me donne l'intuition de l'éternité, l'intuition d'une vie éternelle, donc de la résurrection des morts éventuellement. Où est-ce que Rabbi Yochanan trouve ça? Chez les Kohanim. Le Kohen, dans la société hébraïque antique, représentait effectivement cet élément d'éternité. C'est-à-dire, imaginez une société agricole. Dans une société agricole, on a le sentiment permanent du changement. Il y a les quatre saisons, il y a la récolte, et puis après, il y a les semailles, etc. Il y a un cycle éternel de transformation. Et dans cette société où tout change, il y a un élément qui est stable. C'est le Kohen. C'est-à-dire, le Beth Amikdash, avec tout ce qu'il comporte, c'est une institution où tout est permanent. On fait des sacrifices tous les jours, y compris le Shabbat. Donc, c'est un morceau d'éternité dans notre vie éphémère. Voilà, c'est merveilleux, ça. Très bon. Alors, imaginez, chaque année, pendant trois fois par an, l'agriculteur hébraïque se rend au Beth Amikdash, il est épaté par ce qu'il voit. Il voit la Shrina qui est présente, et puis les Kohanim ont toujours la même tête, ils sont toujours habillés de la même manière, rien ne change. Remarquez une chose importante, le Kohen, dans la tradition, et c'est exactement le contraire de ce qui se fait par exemple dans les religions d'Europe. Pourquoi est-ce qu'ils ont des prêtres, les Kohanim ? Pour assister le mort, enfin le mourant, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est le spécialiste de la mort. C'est la Chevra Kadisha chez eux. Chez nous, le Kohen, il n'a pas le droit d'être en contact avec le mort. Bichlal, les Kohanim sont des gens qui vivent d'une vie absolument anormale. Parce que la vie, elle est faite de quoi ? Dans la vie, il y a de la mort. Et puis, il faut travailler. Il faut travailler, c'est dur de travailler. Et puis, à part ça, il y a parfois des échecs dans la vie. Or, le Kohen n'a pas le droit d'être en contact avec les morts. Il n'a pas besoin de travailler puisqu'il est alimenté en terouma, en maaser, autant qu'il veut. Et puis, des échecs, il ne connaît pas. Il n'a pas le droit d'épouser une divorcée. Le divorce étant l'échec par excellence, il ne peut pas connaître dans sa vie conjugale ce genre de personnes-là. C'est interdit. C'est-à-dire qu'il vit dans une vie totalement théorique. C'est-à-dire, il est un peu angélique, le Kohen. C'est ce qui lui permet d'ailleurs de surmonter les difficultés de la vie et d'aider les autres. On peut dire le quoi ? Hein ? Il peut épouser une veuve, mais c'est moins grave, c'est parce que c'est un peu naturel. Mais s'il est Kohen Gadol, même ça, il ne peut pas. C'est-à-dire, il y a des degrés. Et d'ailleurs, dans Ézéchiel, il y a une Haftara, vers Kohanim, Alevim, Benetzadok, etc. Et là-bas, il dit que viendra un temps où même les Kohanim simples ne pourront épouser une veuve que d'un Kohen. N'est-ce pas ? Vers Almana, Ashertie, Almana, Mi Kohen, Ikaro. Et donc, on voit que chez les Kohanim, de manière générale, il y a une tendance à vivre une vie de pureté, les ongles propres, et donc être en dehors des difficultés de la vie. Alors, vous comprenez, le type qui, tous les jours, travaille la terre, il se salit les mains, etc., et c'est très dur, il rentre à la maison trempé par la pluie, etc., quand il rencontre le Kohen, il a l'intuition de l'éternité, surtout quand il voit la pureté morale du Kohen. Bon, ça, c'est, tout ça, c'est très joli. Maintenant, il y a un problème, c'est la réalité historique. Dans la réalité historique, les Kohanim ont fait des gaffes, n'est-ce pas ? Dans le Beth Amikdash, ce n'était pas toujours très beau. Par exemple, vous avez qu'à voir la Haftara où il est question de Shmuel Hanavi. D'accord ? Donc Shmuel, il vit dans un temps où les Kohanim, dans le Mishkan de Shiloh, se comportaient mal. Et beaucoup de problèmes nous avons eu dans l'histoire à cause des Kohanim. Et donc, on peut dire que c'est ça l'objection cachée dans le fait qu'on amène l'opinion de Rabbi Ishmael. Parce que Rabbi Ishmael dit... C'est vrai, mais souviens-toi qu'il y a des Kohanim qui ne sont pas dignes d'être des Kohanim. Et finalement, ça entraîne une décadence, ça entraîne finalement, un jour, la destruction du temple. Et donc, toute cette histoire, c'est très beau pour une époque très particulière dans l'histoire, ce qu'on appelle l'époque des Hébreux. L'époque où les Juifs, qui n'étaient pas encore des Hébreux, vivaient sur leur terre avec le Beth Amikdash au milieu d'eux. Mais que faire à partir du moment où l'exil a commencé et le moment donc où les Hébreux sont devenus des Juifs ? Alors comment les Juifs, qui eux n'ont plus le temple, certains d'entre eux ont même vu la destruction de ce temple, comment est-ce que les Juifs vont avoir l'intuition de l'éternité ? Et donc cette connaissance du Olam Haba. Voyez-vous, c'est ça la question qui est posée en filigrane par la Guémara. Est-ce que ce n'est pas clair tout ce que je dis là ? Parce que si ce n'est pas clair, il faut le dire. Sinon, vous serez complètement largué par la suite.
Où est-ce qu'on voit dans le texte de la Gemara ?
Lui, il est sensible parce qu'il est Kohen. Hein ? Oui.
Où est-ce qu'on voit dans le texte de la Gemara qu'on parle la problématique de la diaspora.
Ah, ben par la suite. C'est pour ça qu'il y a une suite au texte. D'accord ? Mais ce que j'ai fait là, ce n'est fait qu'anticiper. D'accord ?
Je n'ai pas compris au début, vous avez dit, quand on pose la question d'où on voit dans la Torah, vous dites que la question est mal traduite.
Bien sûr.
C'est quoi la vraie question ?
C'est d'où, qu'est-ce qu'a fait la Torah pour que nous ayons l'intuition de la résurrection des morts ? D'accord ? C'est ça la vraie question. Parce que d'où est-ce que nous savons qu'il y a la résurrection des morts ? Ben, nous le savons par tradition, tout simplement. D'accord ? Alors, regardez, il y a un petit appendice quand même dans cette histoire. On va nous parler de, ce, pourquoi il ne faut pas donner la terouma à un Kohen qui n'en est pas digne. Rav Aha bar Ada, Amar Rav Yehuda. Kol anoten terouma le Kohen am haaretz, keilu notna lifne ari. Celui qui donne de la terouma à un Kohen qui en est indigne, c'est comme s'il la donnait devant un lion. Ah bon ? Que fait le lion ? Ben, vous savez, quand un lion apprend sa proie, en général, le lion ne la mange pas tout de suite. C'est vrai, les lions, en général, attendent que la viande soit un peu faisandée, et après, ils la mangent. Ils n'aiment pas quand c'est trop frais. Ça a besoin d'être un peu pourri comme ça. Et alors, c'est là qu'ils mangent la proie. Mais parfois, quand le lion a très faim, il mange tout de suite. N'est-ce pas ? Alors, ce qu'il dit là, Ma'ari, Safek Dores Veochel, Safek Eno Dores Veochel. Le lion, il y a un doute. Peut-être qu'il va prendre sa proie et la manger, peut-être qu'il va la prendre sans manger. Af Kohen Amaharet, il en est de même pour le Kohen ignorant, Safek Ochla Betahara, Safek Ochla Betouma. Peut-être qu'il la mangera en état de pureté, peut-être qu'il la mangera en état d'impureté. Rabbi Yochanan Omer, Af Gorem Lomita. Rabbi Yochanan dit également qu'il entraîne celui qui donne la terouma au Kohen qui ne le mérite pas. Il est responsable de la mort du Kohen. Gorem Lomita, Sheneemar, Umetubo ki yehalelu. Ils mourront de l'avoir transgressé, de l'avoir profané. Debe Rabbi Eliezer ben Yaakov Tana, et chez Rabbi Eliezer ben Yaakov, on enseignait, Af Masio Avon Hashma, il le rend coupable. Envers Dieu, chez Nehemar, Ve'esiwotam Avon Hashma, Beorlam et Kochem, ils leur causeront une faute de culpabilité lorsqu'ils mangeront leurs choses saintes. Vous voyez qu'il y a ici donc trois problèmes de décadence morale chez le Kohen qui n'est pas digne de manger la terouma. Il peut y avoir toujours trois problèmes dans la moralité en Israël, c'est toujours Ben Adam, la Makom, entre l'homme et Dieu, Ben Adam, la havero entre l'homme et son prochain, ou bien Ben Adam, les atmo entre l'homme et lui-même. Eh bien, vous avez ici les trois dimensions. La première, c'est le doute. Le doute, est-ce qu'il va manger en pureté ou pas en pureté ? Le doute, c'est ce qui ronge la relation Ben Adam, les atmo, l'homme envers lui-même. Et puis, quand il cause la mort du Kohen, c'est un problème de Ben Adam, la havero. Et quand il le rend coupable par rapport à Dieu, c'est Ben Adam, la makom. D'accord ? Ce sont les trois dimensions de la culpabilité. Que l'on trouve. Quel problème ? Je peux t'aider ? Bon, sur les trois dimensions de culpabilité morale que l'on peut trouver, c'est Ben Adam, la Hakom, la Havero et la Atzmo. En tout cas, donc, ce que nous avons dit, c'est que l'institution du Bet Amigdash, des Kohanim, donne l'intuition de l'éternité dans la vie éphémère, et bien ça, c'est au temps du Bet Amigdash. Mais que faire après le temps du Bet Amigdash ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le problème qu'on trouve dans un livre très important qui s'appelle Le Petit Prince, dans lequel le problème du Petit Prince, c'est quand il va voir le géographe. Et alors le géographe lui dit, mais c'est merveilleux, tu viens d'une autre planète, tu es donc un explorateur. Eh bien, tu vas donc me raconter comment est ta planète. Et on va l'écrire dans les livres de géographie. Qui d'ailleurs sont les livres les plus importants du monde. Ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce que les livres de géographie sont les plus importants du monde ? Parce qu'on écrit là-dedans ce qui est stable. Alors le petit prince dit, voilà, ben, sur ma planète, il y a trois volcans, mais il y en a deux qui sont éteints, mais on ne sait jamais. Alors le géographe écrit, on ne sait jamais, trois volcans. Bon. Et puis il dit, à part ça, j'ai une fleur. Nous n'écrivons pas les fleurs. Ah ben pourquoi ? C'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que ça veut dire éphémère ? Dit le petit prince. Ben, éphémère, c'est ce dont la fin est proche. Et alors là, c'est l'effondrement du petit prince. C'est-à-dire, c'est le grand choc de sa vie. Il découvre que ce qui fait la texture même de son existence, ce qu'il y a de plus beau, le vécu, quoi, eh bien ça n'a pas d'importance, c'est pas éphémère, c'est pas éternel. Et alors il demande au géographe, oui, mais vous écrivez bien les volcans éteints. Les volcans, ça c'est... Oui, mais ce qui est important pour nous, c'est la montagne. Mais les fleurs, c'est éphémère. Alors vous comprenez, le drame de la vie du petit prince, c'est qu'il doit maintenant donner une valeur d'éternité à sa fleur éphémère. Ah, vous rigolez, hein ? Ben non, c'est un problème très grave. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Le nombre de fois dans la vie où nous nouons les lacets de nos chaussures, c'est un nombre énorme. C'est calculable, mais enfin, quand même, c'est très important. Comment ? Hein ? Des chaussures avec ? Un mocassin, le mocassin. D'accord ? Bon, d'accord, mais le nombre de fois où on met ses chaussures, tout simplement, c'est énorme. Surtout, par exemple, pour un enfant, vous vous rendez compte ? Un enfant de 5 ans qui vient enfin, pour la première fois de sa vie, il a réussi à fermer tout seul ses chaussures, il est tout fier, ça lui a pris une demi-heure. Il va voir sa maman, c'est un truc absolument horrible, la chaussure de gauche est à droite, etc., les nœuds sont mal faits, ça, tout fier, il va voir. C'était l'entreprise de sa vie. Et puis on dit un jour, tu sais, dans l'éternité, tout ça, ça n'a aucune importance. Qu'on attache ou qu'on n'attache pas ses lacets, qu'on les attache, mal ou bien, qu'on ait des mocassins ou des chaussures avec lacets, aucune importance. Alors comment ? Ça veut dire que ce que je fais toute ma vie n'a pas de sens ? C'est horrible, vous rendez compte ? Alors il y a des stratégies pour s'en sortir. La stratégie, par exemple, celle d'Israël, c'est la halakha. Il y a une halakha qui dit comment est-ce qu'on doit attacher ses lacets, ou comment est-ce qu'on doit mettre ses chaussures. C'est extraordinaire, ça veut dire que le créateur du monde, le créateur des mondes, s'intéresse à mes lacets. Donc il y a une conséquence dans l'éternité, dans l'absolu, à la manière dont j'attache mes lacets. Heureusement qu'il y a une halakha pour ça. Alors évidemment, heureusement qu'il y a une halakha pour toute chose. Plus il y a de halakhot, mieux c'est. Ça nous sauve de l'éphémère. Voyez-vous ? C'est gigantesque.
Pourquoi est-ce qu'on peut voir ça à part le petit prince ? Parce que tout le monde n'a pas le petit prince n'a pas été retenu
dans la littérature halakhique ?
Non, c'est intéressant ce que vous dites.
Oui.
Ce qui me gêne, c'est qu'on a le petit prince. Non, c'est pas le petit prince.
Quoi ? Où est-ce qu'on peut voir ça ? Cette référence ?
Le côté infini des choses.
Eh bien, tout simplement, la halakha qui dit comment attacher ses lacets. Oui. Je vais expliquer par exemple. Ça veut dire quoi ? Non, c'est très simple. Quel lacet il faut attacher en premier ? Celui de gauche ou de droite ? Celui de gauche. Ah bon, et pourquoi ? Hein ? Alors que toute chose, on doit commencer par la droite. Pourquoi quand il s'agit d'attacher des lacets, on commence par la gauche ? Parce que ce qui s'attache est déduit de la manière dont on attache ses téphilines. On doit lier les téphilines. Or, les téphilines, on les met à gauche, ce qui veut dire que pour attacher, il y a une préférence accordée à la gauche qu'à la droite. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, se pose la question, pourquoi est-ce que la Torah préfère la gauche à la droite dans les téphilines ? C'est quoi la gauche ? C'est Midat Hadin. C'est la rigueur. Et la droite ? C'est la générosité, la bonté. Quand Dieu a voulu créer le monde, dit le Midrash, il a voulu le créer par Midat Hadin, mais il a vu qu'il ne tiendrait pas, il a mélangé un peu de Chesed pour que ça devienne Rachamim, mais comme ça que le monde tient. Ça veut donc dire qu'il faut attacher ce qui est à gauche pour qu'il ne dépasse pas ses limites. D'ailleurs, c'est ce que disent les kabbalistes quand on lit la Akedat Yitzhak, quand on arrive à Vayaakod et Yitzhak Beno, il faut penser au fait que la Midat Hadin a été attachée, ligotée par la Midat Chesed, pour qu'elle ne détruise pas le monde. D'accord ? C'est ça la Akedat Yitzhak. Ça veut donc dire que la préférence accordée à la gauche sur la droite pour ce qui est d'attacher est une dérivée d'une donnée métaphysique. N'est-ce pas? Ben si, parce que ça vient du fait qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a ligoté la Midat Hadin. Ça veut donc dire que quand j'attache mes chaussures, en conformité avec la halakha, je me relie à une dimension d'éternité. Merveilleux. Donc ça veut dire que depuis la création du monde, il y avait déjà en potentiel les règles d'attachement de mes lacets. D'accord? Donc, on n'a pas besoin du petit prince. On peut passer par la halakha. À part ça, il n'y a pas de mal à passer par le petit prince pour une raison très simple. C'est que quand un goy dit quelque chose de vrai, il n'y a pas de raison de ne pas s'en servir. C'est ce que disait d'ailleurs Maïmonide dans le Shmoneh Prakim quand il dit « Usma al-haq miman qa'alahi ». Ce qui veut dire « Écoute la vérité de celui qui l'a dit ». D'accord? En hébreu, on dit « Ushma ha'emet imishe amara ». Non. C'est-à-dire ce dicton-là de Rambam, Ushma ha'emet imishe amara, Ushma al-haq miman qa'alahi. Où est-ce qu'il a été chercher tout ça, le Rambam? D'où ça vient cette phrase? Vous savez pas d'où ça vient? Ben, c'est l'oncle de Mahomet qui l'a dit. Abou l'Abbas, ça plaît. Que faire? Bon. Donc, on voit bien que même le Rambam, il se sert du petit prince. Bon. Soit dit en passant, le petit prince, Antoine de Saint-Exupéry l'a écrit pour un juif. Oui. Dans la dédicace, il dit qu'il l'écrit pour un ami à lui, Léon Werth, qui habite en France et qui souffre, etc. C'était un juif dans le maquis communiste. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de juif là-dedans.
Il a lu la Guémara aussi.
Qui, Saint-Exupéry a lu la Guémara? Ah, je ne savais pas.
Je l'ai su pour mon
âme. Ah bon? Ah ben merci, je vous remercie. Bon, donc, je reprends ici notre sujet d'étude. Nous allons rentrer dans la Guémara à nouveau. On peut dans la Guémara ou vous voulez simplement Petit Prince? Alors, dans la Guémara, nous avons donc ce problème, c'est que l'institution des Kohanim, l'institution du Beth Amikdash, est utile pour connaître, pour avoir l'intuition donc de l'éternité dans la vie éphémère, mais c'est bon à l'époque des Hébreux. Une fois que les Hébreux ont cessé d'être des Hébreux pour devenir des Juifs, c'est-à-dire des Hébreux en exil, alors on se demande qu'est-ce qui, pendant notre exil, nous donne le sentiment de l'éternité. D'où est-ce qu'on a cette idée de Tehiyat HaMetim? Voilà. Ça, c'est ça, la question. Bien, la réponse, quoi? Il y a un problème? Très bien, très bien. Donc, je reprends. La réponse, elle va nous être donnée par Rabbi Simaï. Tania, Rabbi Simaï, Omer. On enseignait que Rabbi Simaï disait, c'est juste un peu avant l'élargissement de la ligne. Vous voyez que les lignes s'élargissent. Alors, quand c'est encore étroit, il y a écrit Tania, Rabbi Simaï, Omer, Rabbi Simaï enseignait. Minayin itchiyat amitim mina Torah. D'où savons-nous la résurrection des morts selon la Torah? Shenema, car il est dit. Vegam hakimoti et beriti itam la tête laim et teretz kenan. Je vais accomplir mon alliance avec eux de leur donner la terre de Kenan. Vous n'avez pas trouvé là-bas? Vous savez que les lignes s'élargissent là, vous avez vu?
S'élargissent.
Bah, qu'est-ce qu'il y a écrit chez vous? Quel numéro de page il y a écrit en haut? 180? Et là aussi vous avez 180?
Ah, mais là c'est coupé.
Et là vous avez 180 ou pas?
Là c'est coupé.
Là, non, là, dans le livre vous avez?
Ouais,
180, d'accord? Vous voyez que la ligne s'élargit? Voilà, alors juste un peu avant. Bah oui, les lignes s'élargissent. Il y a des lignes étroites et des lignes larges. Voilà, c'est simple, hein? C'est dans quel sens, effectivement? Vous savez, c'est comme on dit qu'il y a un aviateur belge qui, dans un concours d'aviation, s'est écrasé plusieurs fois sur la piste. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, parce que leurs pistes sont plus larges que longues. Voilà. Oui. Ouais. Donc, Rabbi Simaï Omer, Rabbi Simaï disait, Minayin itchiyat amitim min haTorah. Nous savons-nous la résurrection des morts selon la Torah? Chez Nehemar, car il est dit, Vegam hakimoti et beriti itam, je vais accomplir mon alliance avec eux, la tête lahem et teretz Kenan, de leur donner le pays de Kenan. C'est quoi ce verset? C'est un verset dans Shemot, c'est lors de la révélation du buisson ardent. Qu'est-ce qui se passe là? Vous pouvez? Quelque chose qui... Je sais pas, bon, peu importe. Non, non, ça va, ça. Lors de la révélation du buisson ardent, Dieu dit à Moshe, quelque chose qui siffle là. Oui, je demande si c'est pas ordinaire. Hein? Il y a quelque chose qui siffle là. Oui, ça fait pip, comme ça. Je me demande si ça vient pas de là. Voilà, c'est ça.
La batterie.
C'est la batterie. Que faire?
Faut pédaler.
Oui, on va
essayer. Bon. On peut continuer?
Oui.
Mais non, si c'est pas enregistré, on peut pas. Bon. Vega Makimoti. Donc, c'est dans le buisson ardent. Dieu dit à Moshe, voilà, j'ai pris la décision de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Ah, c'est pas dans le buisson ardent, c'est plus tard, effectivement. C'est dans le chapitre Vav. Il dit, pourquoi est-ce que je vais faire sortir les enfants d'Égypte? Parce que j'ai une alliance à accomplir. Cette alliance, je l'ai accomplie, je l'ai conclue avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. L'alliance consistait à leur donner la terre de Kenaan, et donc j'ai décidé d'accomplir mon alliance. La tête, la hem et Teretz Kenaan. Alors, le problème se pose, c'est que au moment où Dieu a parlé à Moshe, les Avot étaient déjà morts depuis longtemps. Alors comment est-ce que l'on peut dire... Ah. Ouais, bah, il continue, hein, il récidive. Ah. Bah, si déjà... Voilà. Et donc... puisque les Avot étaient déjà morts depuis longtemps, comment est-ce que Dieu peut accomplir son alliance qui était de leur donner la terre d'Israël? Ce qui veut donc dire que viendra un jour où les Avot devront revivre pour prendre en possession la terre d'Israël. Pour possession de la terre d'Israël, n'est-ce pas? Alors, c'est ce que dit ici Rabbi Simaï. Lahem lo ne'emar. Il n'est pas dit de la donner à vous, et la lahem, mais de leur donner à eux. Mikan itriyat ametim mina Torah, ce qui prouve la résurrection des morts selon la Torah. Ça vous convainc?
Lahem, ça ne pouvait pas être les bnei Israël.
Alors, évidemment, au niveau du pshat, on est bien obligé de dire que lahem, finalement, c'est vrai que c'était les avot. Mais comme ils ne sont pas là, alors c'est donné à leurs héritiers. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Venatati ota lachem moracha. Je vous la donnerai en héritage. Puisque eux ne sont pas là, c'est vrai que j'ai promis à eux, mais ils sont morts, alors je vais la donner à vous. N'est-ce pas? C'est ça le pshat.
C'est grâce à eux.
C'est grâce à eux. Alors, mais pourtant, la Gemara, Rabbi Sima, il ne comprend pas comme ça. Rabbi Sima, il dit non, les avot, ils m'ont ressuscité. Alors, c'est vrai qu'ils m'ont ressuscité. Mais ça veut dire aussi que lorsque nous prenons possession de la terre, c'est-à-dire que lorsque nous revenons à notre sol, nous sortons de l'exil, nous accomplissons en cela la promesse faite aux Avot. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, par exemple, le retour de nos jours, l'État d'Israël, ça fait partie de la promesse. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu l'a promis aux Avot, donc on ne pouvait pas ne pas revenir. C'était impensable que l'histoire ne comporte pas, entre autres, le retour d'Israël à sa terre. Ça, c'était une promesse, c'était promis, juré. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, souvent, on se demande, est-ce qu'il y a un rapport entre la Shoah et l'État d'Israël? La vérité est qu'il n'y a pas de rapport, pour une raison très simple. C'est que l'État d'Israël, c'est une promesse que Dieu devait tenir de toute manière. La Shoah, il n'a jamais promis. D'accord? Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être une corrélation, mais elle n'est pas indispensable. On aurait très bien pu s'en passer de la Shoah. De toute façon, on aurait eu l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le Shoah. Il fallait revenir en Eretz Israël. Et donc, il y a pour le juif d'exil, le juif qui n'est plus hébreu, qui vit en exil, il peut y avoir une intuition de l'éternité lorsqu'il vit le sionisme. C'est-à-dire le sionisme... Non, d'abord, les transgressions, elles ne sont pas indispensables.
Non, mais en cas de transgression...
Dès que vous dites en cas de, ça veut dire que ce n'est pas indispensable. C'est-à-dire qu'on peut ne pas transgresser. Deuxièmement, je pense qu'on ne peut pas, ça c'est un sujet d'étude en soi, on ne peut pas réduire la Shoah à un problème de transgression. C'est absolument impossible, et d'ailleurs on voit que les textes qui en ont parlé, parce que nos maîtres en ont quand même parlé à l'avance de ces choses-là, n'ont pas lié ça au problème de la transgression.
Est-ce qu'un point de vue
malheureusement. Et donc, oui, alors c'est pour ça qu'il faudrait un jour faire une étude là-dessus. Peut-être que, à une occasion d'un des cours, comme ça, on étudiera ce que pense la tradition de la Shoah. C'est important quand même, vous ne pensez pas ? Hein ? Ça vaut la peine. Hein ? Bon, voilà, on en parlera un jour. La semaine prochaine, c'est à l'approche de Hanouka, allez, quand même, hein, hein, quand même pas. Mais enfin, on trouvera une occasion. Donc tout ça, je peux vous dire qu'il y a un témoignage d'éternité dans l'histoire, c'est le retour d'Israël. Et donc, ça explique d'ailleurs ce qui se passe dans le livre d'Ézéchiel, le passage que vous avez si bien cité tout à l'heure. Quand Ézéchiel parle de morts qui ressuscitent, on voit très bien dans le contexte qu'il ne s'agit pas de la résurrection des morts, mais qu'il s'agit du retour d'Israël. C'est-à-dire que si une nation morte peut revivre, alors un individu mort peut revivre aussi. D'accord ? C'est-à-dire, ça va ensemble. C'est le même ordre d'idée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, vous connaissez la deuxième bénédiction du Shmoné Esré ? Bon, les hommes connaissent, les femmes ne font pas la prière. Mais vous, les hommes, vous connaissez, non ? La deuxième bénédiction du Shmoné Esré. Le Shmoné Esré, c'est la prière, les 18 bénédictions. Non, vous n'êtes pas obligé de savoir, puisque les femmes ne font pas la prière. Mais, elles ne sont pas obligées. Comment ça, Shiveni ? Non, pas du tout, pas du tout. La deuxième bénédiction, c'est Ata Gibor. N'est-ce pas ? Non, mais ce n'est pas de votre faute, vous n'êtes pas censé savoir, puisque les femmes ne font pas la prière, mais les hommes sont censés savoir. Comment ? Hein? Oui, bien sûr. Oui. Je vois un étonnement sur vos visages. Ah oui, bien sûr. Mais c'est vrai. Nos grands-mères, nos saintes grand-mères, Aleihem HaShalom, jamais n'ont fait le Shmoné Esré. C'est quoi ces histoires ? Comment ? Oui, mais ce que je veux dire, c'est justement ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber justement dans ce formalisme absolument incroyable qui font que les femmes ont les mêmes obligations que les hommes, etc. C'est pas vrai. Donc c'est pour ça que j'insiste. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui n'est pas bien connu, alors j'insiste pour que ce soit bien connu. D'accord ? Voilà. Les hommes font la tefila ?
Non, c'est les hommes qui font.
Vous trouvez que c'est meilleur quand c'est les hommes qui font ?
Non,
je crois pas. Je veux bien, d'accord, oui. Mais le problème, je suis pas contre que les hommes fassent la tefila, mais je pense qu'elle est moins bonne. Hein, c'est pas la même chose. Essayez, vous avez déjà essayé peut-être de faire ça à votre mari, ça marche pas. Bon, en tout cas, donc pour revenir à notre sujet, dans la deuxième beracha, qui finit par Mechaye Ametim, on parle six fois de la même chose. Regardez un peu. Ata Gibor Leolam Adonai, quelle est la suite? Mechaye Metim Ata. Mechaye Metim Ata, Rav Leoshia. Donc, Mechaye Metim, c'est une première fois. Une seconde, vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Mechaye Metim Ata, Rav Leoshia. Mashiv Aruach Mori Dagashe, Mechalkel Chaim Bechesed, Mechaye Metim, Berachamim Rabim. Sommer le fibre au ferroli, Matir Asurim, Umkayem et Munato, Lichene Afar. C'est à nouveau la résurrection des morts. Michamocha Baal Givurot, Umidomelach, Melech. Memitum chaye, umatzmiach Yeshua, veneeman ata leachayot metim, baruch ata Hashem, mechaye ametim. Six fois. C'est lourd, non ? Plus lourd que ça, tu meurs. D'accord ? Alors, c'est six fois parler de la résurrection des morts. Il est évident que l'intention du texte, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il s'agit de six choses différentes. La première, Mechaye Metim Ata, c'est un passé, un présent ou un futur ? Mechaye, c'est un présent, n'est-ce pas ? Donc, qui sont les morts que Dieu fait vivre au présent ?
Nous.
C'est nous, exactement. C'est-à-dire, nous, les hommes vivants sur Terre, nous sommes en fait des morts que Dieu vivifie. C'est-à-dire que notre vie ne vient que de lui, d'accord ? C'est ça, Mechaye Metim Ata. Après, vous avez le deuxième, c'était Mechaye Metim Berachamim Rabim. Qui c'est les morts qui ont besoin de beaucoup de miséricorde pour vivre ? Eh bien, c'est les méchants. Les Rechaim, les méchants, sont appelés morts de leur vivant. Et pourtant, Dieu leur donne la vie. Pourquoi est-ce que Dieu donne la vie aux méchants ?
Pour qu'il en ait.
Parce que peut-être qu'ils vont faire teshuva. C'est ça la midat arachamim. C'est ce que dit le Ramchal dans Messilat Yesharim. La midat arachamim, la miséricorde, c'est le temps accordé pour faire teshuva. Donc, mechaye metim berachamim rabim, il s'agit des méchants qui sont quand même vivifiés. C'est quoi umkayem emunato lishene afar? Il respecte son engagement envers ceux qui résident dans la poussière. Ceux qui dorment dans la poussière.
Quoi?
Pas du tout. Parce que les morts, ils ne sont pas dormants. Qui c'est qui dort dans la terre?
Le soleil.
Comment?
Les pauvres.
Les pauvres, ils ne sont pas dans la poussière.
Non.
C'est les avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov. On les appelle d'ailleurs dans nos prières Yeshene Hevron. Ceux qui dorment à Hevron. Parce qu'on considère que les avot ne sont pas vraiment morts. Et donc c'est quoi l'engagement? Ça veut dire quoi que Dieu respecte son engagement envers ceux qui dorment dans la poussière? C'est quoi son engagement qu'il a envers eux?
De les faire bechayim.
Pas du tout. C'était quoi l'engagement qu'il a eu envers les avot? De leur donner la terre. Donc ça veut bien dire que le retour sur la terre d'Israël, c'est une des six formes de la résurrection des morts. D'accord? Ce qu'il fallait démontrer.
Mais alors pourquoi ça n'a pas été retenu? On a dit que
oui. Oui, qu'on parle de la résurrection des morts vraiment, tandis que le verset d'Ézéchiel, il parle de la résurrection de la nation. Ça donne une intuition, mais ça ne parle pas expressément. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Après, bon, voilà, donc ça, c'était ce que vous prévez. Après, il y a encore les trois autres formes. Ça vous intéresse quand même? Allez, on va quand même dire. Bon. Michamocha baal givurot umidomelar, qui est comme toi, héroïque et tout vrai, et vaillant. Qui te ressemble, Meler Memit Umhaye, Dieu qui met à mort et qui fait vivre, ou Matmiach Yeshua et qui fait grandir, qui fait croître la délivrance. Il y a quelque chose de terrible qui se cache là-dedans. Ça veut dire que juste avant que la Géoula ne croie, il y a un moment où certains vivent et certains meurent. C'est quoi? Non, ça veut dire qu'il y a un événement juste avant la Géoula, qui fait que certains vivent et certains meurent. Avant la Géoula.
Le jugement dernier?
Non, pas du tout. Avant la Géoula. Le jugement dernier, c'est après la Géoula.
Il meurt et après.
C'est la Shoah. C'est la Shoah. C'est-à-dire, nous avons des allusions dans les textes que la Shoah est possible juste avant la délivrance. Rien à voir d'ailleurs avec les transgressions, tout à fait autre chose. Et c'est attendu des questions. Mémitum chayé. Mais juste après, ou matzmiach yeshua. Donc vous avez la quatrième forme de Tehillat Hamikdash. Et puis après vous avez Veneeman Ata Lehachayot Metim. Ça veut dire quoi ça? Tu es fidèle pour ressusciter les morts. De quelle résurrection des morts il s'agit? Eh bien de la vraie. Il faut bien aussi que ce soit mentionné dans la bracha, non? Veneeman Ata Lehachayot Metim. Viendra le temps où il y aura également la résurrection des morts individuels. Et on sait que Dieu est fidèle et qu'un jour il la fera. N'est-ce pas? Et après, la sixième, c'est quoi? Baruch Ata Hashem Mechaye Ametim, c'est quoi? Ben, c'est la récapitulation. Il faut bien quand même qu'il y ait une bracha qui met tout à la fin. D'accord?
Hein? On remercie quand même.
Voilà, on remercie. Non, 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 attention, pas du tout. Les trois premières berachot ne sont pas des remerciements. Ce sont des louanges. Les trois premières sont le Sheba. Et les remerciements, ça se fait à la fin, les trois dernières. Et au milieu, il y a des demandes. 12-13 demandes. Oui? C'est-à-dire quoi, une autre interprétation? Ah ben, il faut voir dans les commentateurs. Je sais plus. Je sais pas. Peut-être, certainement. Bon. Oui?
En général, les récapitulations, ça correspond plutôt au chiffre 7. Comment ça se fait qu'il n'y ait que 6 et pas 7?
Comment ça se fait qu'il n'y ait que 6 et pas 7?
Si déjà on est à 6, il doit y avoir une signification 6.
Je sais pas.
Il
faut trouver peut-être. Je ne vais pas te faire tout faire moi. Hein. Vas-y. Bon. Voilà. Donc c'est ça les deux formes de connaissance de l'éternité, selon qu'on est hébreu, et dans ce cas-là, on prend la réponse de Rabbi Yochanan. Ou bien que l'on est juif, et alors on prend la réponse de Rabbi Simaï. D'accord ? Et vous allez voir que la Guémara va rentrer de plus en plus profondément dans une liste d'interlocuteurs. Il y a d'autres interlocuteurs qui vont s'adresser aux Chachamim et qui ne sont ni hébreux ni juifs. Alors ils sont quoi? Ils sont entre hébreux et juifs. C'est possible, ou bien. Qui c'est qu'il y a encore dans le monde à part les juifs et les hébreux? Il y a des goïms. Ah ben voilà, voilà. Il y a des goïms. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Je crois que c'est la majorité. Et donc, eux aussi ont besoin de savoir où est-ce qu'il y a un témoignage d'une étincelle d'éternité dans le monde. Maintenant, entre les juifs et les goyim, il y a encore une identité intermédiaire. C'est quoi? Quelque chose qui n'est ni juif, ni goy.
Ni juif, ni
goy? Oui, il y a quelque chose au milieu. Au milieu. Les guérims, c'est déjà des juifs. C'est vrai que ça ressemble un peu. Oui? Les mamzerim, c'est des juifs. Ça pourrait être... Oui, non, c'est vrai, effectivement, il y a quelque chose... Disons comme ça. Il y a dans la famille, dans la proximité d'Israël, il y a des familles, des nations qui sont proches de nous. Mais c'est quand même déjà des nations. Je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Il s'agit des minimes. Les minimes. Non, les minimes. Les minimes, ce sont des juifs qui sont sur... qui ont franchi le Porsche en direction du monde des goïms. C'était, historiquement parlant, la première communauté de chrétiens. Les premiers chrétiens qui vivaient du temps de Rabban Gamliel ont été désignés par nos maîtres comme étant des minimes, c'est-à-dire une espèce à part. Mine veut dire une espèce. Une espèce. C'est-à-dire, il est une espèce en pour lui-même. Il n'est ni juif, parce que, bien que tant de la descendance d'Israël, mais il n'est pas encore goï. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'animosité envers cette espèce de mine, justement, a été très, très forte chez les Chachamim, puisqu'ils ont institué la bénédiction contre les minimes, la malchinim et la minimatikva. Historiquement, ça a été contre cette communauté-là. Exactement. Ce sont des juifs taillés. Oui? Hein? Alors, les minimes aujourd'hui... la communauté historique des minimes n'existe plus. Mais il y a des correspondants, t'en fais pas. C'est-à-dire, il y a contre qui diriger cette bénédiction de Shmoné Esra. Hein?
Shalom Shalom,
c'est ça. Shalom. Pourquoi vous dites ça? Non, c'est pas vrai. C'est tout à fait faux, mais enfin, il faudrait... Et alors? Bon. Alors, je prends ici le texte de la Guémara. Vous allez voir, c'est intéressant que la Guémara considère qu'il faut leur parler. Sha'alou minin et Rabban Gamliel. Les minimes ont demandé à Rabban Gamliel. Minayin shakadosh baruchu mechaye metim. D'où savons-nous que Dieu ressuscite les morts? Voyez-vous? Donc, on voit qu'avant de s'adresser aux goyim, alors on est passé des hébreux aux juifs, des juifs, maintenant on passe aux minim. Ce n'est que plus tard qu'on passera aux goyim. Vous allez voir qu'à chaque fois, la Guémara a une autre réponse.
Jésus était considéré minime?
Si vous voulez, oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire, il est le fondateur de ça. D'accord. Et donc, ou bien minime, vous savez, c'est plus grand que minime. Hein? Et donc, les minimes ont demandé à Rabban Gamliel, d'où savons-nous que Dieu ressuscite les morts? Petite remarque, le fondateur du christianisme, qui s'appelait Paul, était un élève de Rabban Gamliel. Donc, il n'est pas du tout impossible que ce dialogue ait rapport à cela. Ils ont dit à Rabban Gamliel, Minayin shakadosh baruchu mechay. Oui. Non. Non, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas sûr. Lui affirme cela. Et bien sûr. Non, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est vrai que Paul affirme avoir étudié chez Rabban Gamliel. Mais non, est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il ment? Vous l'avez jamais cru. Ça, il faudrait demander à Rabban Gamliel. De toute façon, il ressuscitera un jour, Rabban Gamliel, pour lui demander. D'ailleurs, petite question. Est-ce que les chrétiens croient ou pas en la résurrection des morts?
Oui.
Bien sûr qu'ils y croient. Alors, quel est le sens de cette question? Pourquoi ils posent la question à Rabban Gamliel, puisqu'ils y croient?
Ils sont pas
sûrs. Non, ils y croient pour d'autres raisons que nous. Ils y croient justement parce qu'ils disent que leur Messie a ressuscité. Est-ce qu'ils vont nier, ils vont essayer de nier la résurrection des morts de par Israël. Ils vont dire, il n'y a pas de preuve dans l'histoire d'Israël de la résurrection des morts, et c'est pour ça qu'il faut se référer à cet individu-là. Mais en vérité, ils y croient, mais ils ne veulent pas croire dans les preuves amenées par Israël. Et là, c'est très intéressant parce que la Guémara va leur donner trois réponses, et la Guémara va réfuter les trois réponses. C'est, elle donne des réponses qu'elle dit fausses, qu'elle dit pas convaincantes. On va essayer de comprendre pourquoi.
Si déjà on parle de lui, comment ça se fait que les exemples qu'on nous a donnés de Anne-Frélec et Olamaba, ils ne soient pas cités? Ça a été censuré ou...
Non, ils font partie, bien sûr qu'ils font partie. D'ailleurs, la Guémara, on parle par la suite. D'ailleurs, le passage de la Guémara qui parle de Jésus, effectivement, est censuré dans la plupart des éditions. Par exemple, tu peux regarder, puisque tu as ici devant toi Sanhédrin, tu peux regarder à la page. Une seconde. À la page Koufzaïn Amoudbet. Tu as remarqué qu'il y a un grand blanc? Oui, à la page Koufzaïn Amoudbet, il y a un grand blanc. Et bien, c'est là qu'il y avait le passage qui parlait de lui. De Jésus. Voilà. Hein?
Juste après, il y a beaucoup de
chaînes. Oui, bien, on connaît le texte. Il y a des éditions où ça a été rétabli. Nous avons les manuscrits, etc. Mais il faut savoir qu'il y avait ici un texte et que ce texte, supprimé.
Mais dans la Mishnah elle-même, il est déjà.
Non, dans la Mishnah, il n'est pas mentionné, mais il y a une allusion à lui dans la Mishnah quand même, dans Gehazi. Quand on parle de Gehazi, en fait, la Guémara nous fait comprendre que ça parle de lui aussi. De Bilam aussi. Bon. Il faudrait un jour étudier l'ensemble des textes de la Guémara qui parlent de lui. C'est très intéressant la manière dont c'est mentionné. Bon. En tout cas, revenons donc aux trois réponses qui sont données par Rabban Gamliel. Minayin she'akadosh ba'oru mehaye metim, amar lahem, il leur a répondu. Mina Torah, nous le savons par la Torah. Umina Nevi'im, nous le savons par les prophètes. Umina Ketuvim, et nous le savons par les hagiographes. N'est-ce pas? C'est-à-dire que nous avons dans le Tanakh, dans Torah, Nevi'im et Ketuvim, nous avons des preuves de cela. Velo kiblu mimenu, ils n'ont pas accepté les preuves qu'il a présentées. Les minimes n'ont pas accepté. Alors c'est intéressant parce que la Guémara, malgré tout, accepte sa défaite. La Guémara dit, on a essayé de leur prouver, ça n'a pas marché. Est-ce que nos preuves sont des bonnes preuves ou elles ne le sont pas? Eh bien, tout dépend de la manière de lire le texte. C'est-à-dire, si on est juif, alors on a une certaine manière de lire le texte. Et si on est chrétien, on le lira autrement. C'est ça que la Guémara veut dire. Alors, on va essayer de comprendre quels sont les textes en question. Mina Torah, la première preuve est tirée de la Torah. Dirent-ils, car il est dit, Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, Incha shochev imavotecha, tu vas te coucher avec tes ancêtres, Vekam, et te relèveras. C'est écrit en toutes lettres, Incha shochev imavotecha, Vekam. Donc, ça veut dire que Moshe va se relever un jour. Donc, il y a la résurrection des morts. Comment n'y avons-nous pas pensé avant? Ça vous a convaincu, ce texte? C'est une bonne preuve, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce qu'eux n'ont pas accepté? Alors, tout simplement, vous connaissez le texte, à l'origine, c'est tiré de la parasha de Vayelet. Le texte est comme ça. Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moshe, Incha shochev imavotecha, tu vas te coucher avec tes ancêtres, Vekam ha'amazé, et ce peuple se lèvera, Vezana hare elohe nechara haaret, ils se prostitueront après les dieux étrangers de la terre, Va'azavuni, ils m'abandonneront, Ve'efer et biriti asher karati ito, et ils aboliront l'alliance que j'ai conclue avec eux. Donc le mot Vekam, en toute bonne logique, se réfère au peuple et pas à Moshe.
D'après les termes aussi.
Comment?
D'après les termes aussi.
D'après les termes aussi. Bien que dans le terme, il y a là-bas un talcha, c'est-à-dire que pour faire hésiter le lecteur. C'est vrai, non, Vekam, Hamazé, c'est comme, effectivement, on voit dans la manière dont c'est écrit. Mais enfin, Hachorim Avotera, il y a un Zakef Katon. Asura Avotera. Donc il y a une virgule, quoi, si vous voulez. Alors. Hein? Ah! Alors évidemment, la question se pose. Mais en tout cas, la Guémara ici a cité le mot Vekam quand même. Alors regardez la politesse des interlocuteurs. Ils lui ont dit Vedilma, peut-être faut-il lire. Vekam ha'amaze vezana. Et ce peuple se lèvera pour se prostituer. Donc ils n'ont pas accepté. Bon, qu'est-ce qui vous semble plus convaincant? La manière dont c'est lu par les chrétiens ou la manière dont c'est lu par la Guémara, par Rabban Gamliel? Par les chrétiens. Oh là là, c'est grave ça. En fait, il faut très bien comprendre ce que veut dire le verset. Tout d'abord, si on prend le verset littéralement, dans son ensemble, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, viendra un temps où parce que Moshe sera mort, le peuple sera abandonné. Il abandonnera Dieu et Dieu l'abandonnera. Bon, ça vous semble logique ça? C'est absolument intolérable. C'est-à-dire, quand on lit la Torah, dans son ensemble, c'est un livre optimiste ou pessimiste? Optimiste. Ça finit toujours bien. Hein? Ça dépend des moments. Mais dans l'ensemble, l'atmosphère générale du texte, on a l'impression que ça finit toujours bien, n'est-ce pas? À la fin, Moshe meurt. Mais est-ce que ça ira bien? Eh bien, quand on voit le texte de la Torah, on a l'impression que ça finira mal. Parce que Dieu dit, voilà, tu vas mourir, et comme tu vas mourir, ce peuple va m'abandonner, et comme il va m'abandonner, il va abolir l'alliance que j'ai conclue avec eux. C'est absolument intolérable, une chose pareille. C'est-à-dire, si la disparition de Moshe entraîne la décadence du peuple, or, comme ce peuple a une alliance éternelle avec Dieu, il faut donc impérativement que Moshe revive. Donc ça veut dire que Moshe va revivre. Parce que sinon, tout va mal. Ça, c'est une lecture juive. Maintenant, pour le chrétien, au contraire, mais c'est très bien, justement, c'est ce qu'on vous disait, on vous a toujours dit ça, qu'un jour viendra où cette alliance sera rompue. Donc, pour eux, il n'y a pas de problème. Ils disent le mot Vekam comme se référant au peuple. Vous avez compris? C'est donc une question d'approche. C'est-à-dire, si on est juif, alors quand on voit que la mort de Moshe va entraîner la décadence, ça veut dire que Moshe doit revivre. En fait, on n'a pas besoin du mot Vekam. Le mot Shochel, et ça c'est une remarque très juste, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas à Moshe « Incha met »,« tu vas mourir » Pourquoi on dit « tu vas coucher avec chez tes ancêtres » Pourquoi? Parce que ça veut dire que la mort, du point de vue de la Torah, n'est qu'un sommeil. C'est-à-dire, si pour parler de la mort, la Torah dit « se coucher », eh bien, se coucher, ça veut dire « se lever ». Ça implique qu'on va se lever « Beshorbecha » ou « Kumecha » lorsque tu vas te coucher, et après tu vas te lever. Donc, si la Torah a mis le mot « vekam » à côté du mot « shochev », c'est qu'elle veut nous faire comprendre que « shochev » ici est sérieux. Tu ne vas que te coucher, tu ne vas pas mourir. Et donc, tu vas ressusciter. Ses ancêtres, Amram et tout le reste.
C'est pas sexuel au même endroit?
Non, pas du tout, pas du tout.
C'est pas la bonne non plus?
Ben non, les Avot ils sont enterrés dans la Maharat à Marpella, Moshe il est enterré à Arnevo. Et il y a encore une autre petite remarque à faire. Pourquoi est-ce que la décadence du peuple est décrite par le verbe se lever, Vekam? On devrait dire Venafal. On veut dire ce peuple tombera. Ça veut donc dire que la disparition de Moshe, elle va entraîner une chute qui va permettre au peuple de se relever. C'est-à-dire que tant que Moshe est présent, le peuple ne peut pas réussir parce qu'il est empêché par toute la puissance de la personnalité de Moshe. Il ne peut pas évoluer par lui-même. Donc il faut que Moshe se mette de côté à un certain moment pour que le peuple puisse se lever. N'est-ce pas? Donc c'est-à-dire que les décadences d'Israël finalement cachent une élévation. D'accord? Voyez-vous. Et donc c'est ça. Mais enfin, vous comprenez que c'est un dialogue de sourds entre Rabban Gamliel et les minimes. C'est pour ça que la Guémara n'essaye pas de dire « ils ont tort et c'est nous qui avons raison ». Nous avons raison parce que nous le lisons à la manière des juifs de lire le texte, et eux, selon leur approche à eux, ils ont raison de lire le texte comme ils le lisent. Une élévation. Une élévation, voilà. Ça, c'est donc la première des trois preuves amenées par Rabban Gamliel. Voilà. Bon, je crois que ça suffit pour ce soir. Vous en avez eu plein, là, comme ça. Eh bien, à la semaine prochaine, Shalom.